Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, troisième partie, la force. Chapitre 6, la mécanique classique. Les Anglais enseignent la mécanique comme une science expérimentale. Sur le continent, on l'expose toujours plus ou moins comme une science déductive et a priori. Ce sont les Anglais qui ont raison, cela va sans dire. Mais comment a-t-on pu persévérer si longtemps dans d'autres errements? Pourquoi les savants continentaux, qui ont cherché à échapper aux habitudes de leurs devanciers, n'ont-ils pas pu, le plus souvent, s'en affranchir complètement? D'autre part, si les principes de la mécanique n'ont d'autre source que l'expérience, ne sont-ils pas qu'approchés et provisoires? Des expériences nouvelles ne pourront-elles pas un jour nous conduire à les modifier, ou même à les abandonner? Telles sont les questions qui se posent naturellement, et la difficulté de la solution provient principalement de ce que les traités de mécanique ne distinguent pas bien ce qui est expérience, ce qui est raisonnement mathématique, ce qui est convention, ce qui est hypothèse. Ce n'est pas tout. Premièrement, il n'y a pas d'espace absolu, et nous ne concevons que des mouvements relatifs. Cependant, on énonce le plus souvent les faits mécaniques comme s'il y avait un espace absolu auquel on pourrait les rapporter. Deuxièmement, il n'y a pas de temps absolu. Dire que deux durées sont égales, c'est une assertion qui n'a par elle-même aucun sens, et qui n'en peut acquérir un que par convention. Troisièmement, non seulement nous n'avons intuition directe de l'égalité de deux durées, mais nous n'avons même pas celle de la simultanéité de deux événements qui se produisent sur deux théâtres différents. C'est ce que j'ai expliqué dans un article intitulé « La mesure du temps », Revue de métaphysique et de morale, tome 6, pages 1 à 13, janvier 1898. Voir aussi la valeur de la science, chapitre 2. Quatrièmement, enfin, notre géométrie euclidienne n'est elle-même qu'une sorte de convention de langage. Nous pourrions énoncer des faits mécaniques en les rapportant à un espace non euclidien qui serait un repère moins commode, mais tout aussi légitime que notre espace ordinaire. L'énoncé deviendrait ainsi beaucoup plus compliqué, mais il resterait possible. Ainsi, l'espace absolu, le temps absolu, la géométrie même, ne sont pas des conditions qui s'imposent à la mécanique. Toutes ces choses ne préexistent pas plus à la mécanique que la langue française ne préexiste logiquement aux vérités que l'on exprime en français. On pourrait chercher à énoncer les lois fondamentales de la mécanique dans un langage qui serait indépendant de toutes les conventions. On se rendrait mieux compte ainsi, sans doute, de ce que ces lois sont en soi. C'est ce que M. Andrade a tenté de faire, au moins en partie, dans ses « Leçons de mécanique physique ». L'énoncé de ces lois deviendrait bien entendu beaucoup plus compliqué, puisque ces conventions ont été précisément imaginées pour abréger et simplifier cet énoncé. Quant à moi, sauf en ce qui concerne l'espace absolu, je laisserai de côté toutes ces difficultés. Non que je les méconnaisse, loin de là, mais nous en avons suffisamment examiné dans les deux premières parties. J'admettrai donc provisoirement le temps absolu et la géométrie euclidienne. Le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force ne peut avoir qu'un mouvement rectiligne et uniforme. Est-ce là une vérité qui s'impose a priori à l'esprit? S'il en était ainsi, comment les Grecs l'auraient-ils méconnu? Comment auraient-ils pu croire que le mouvement s'arrête dès que cesse la cause qui lui avait donné naissance? Ou bien encore que tout corps, si rien ne vient le contrarier, prendra un mouvement circulaire, le plus noble de tous les mouvements. Si l'on dit que la vitesse d'un corps ne peut changer, s'il n'y a pas de raison pour qu'elle change, ne pourrait-on soutenir tout aussi bien que la position de ce corps ne peut changer ou que la courbure de sa trajectoire ne peut changer si une cause extérieure ne vient la modifier? Le principe d'inertie, qui n'est pas une vérité a priori, est-il donc un fait expérimental? Mais a-t-on jamais expérimenté sur des corps soustraits à l'action de toute force? Et si on l'a fait, comment a-t-on su que ces corps n'étaient soumis à aucune force? On cite ordinairement l'exemple d'une bille roulant un temps très long sur une table de marbre. Et pourquoi disons-nous qu'elle n'est soumise à aucune force? Est-ce parce qu'elle est trop éloignée de tous les autres corps pour pouvoir en éprouver aucune action sensible? Elle n'est pas cependant plus loin de la Terre que si on la lançait librement dans l'air. Et chacun sait que, dans ce cas, elle subirait l'influence de la pesanteur due à l'attraction de la Terre. Les professeurs de mécanique ont l'usage de passer rapidement sur l'exemple de la bille, mais ils ajoutent que le principe d'inertie est vérifié indirectement par ses conséquences. Ils s'expriment mal. Ils veulent dire, évidemment, que l'on peut vérifier diverses conséquences d'un principe plus général, dont celui de l'inertie n'est qu'un cas particulier. Je proposerai, pour ce principe général, l'énoncé suivant. L'accélération d'un corps ne dépend que de la position de ce corps et des corps voisins, et de leur vitesse. Les mathématiciens diraient que les mouvements de toutes les molécules matérielles de l'univers dépendent d'équations différentielles du second ordre. Pour bien faire comprendre que c'est bien là la généralisation naturelle de la loi d'inertie, je demanderai qu'on me permette une fiction. La loi d'inertie, je l'ai dit plus haut, ne s'impose pas à nous a priori. D'autres lois seraient, tout aussi bien qu'elles, compatibles avec le principe de raison suffisante. Si un corps n'est soumis à aucune force, au lieu de supposer que sa vitesse ne change pas, on pourrait supposer que c'est sa position ou encore son accélération qui ne doit pas changer. Eh bien, imaginons pour un instant que l'une de ces deux lois hypothétiques soit celle de la nature et remplace notre loi d'inertie. Quelle en serait la généralisation naturelle? Une minute de réflexion nous le fera voir. Dans le premier cas, on devrait supposer que la vitesse d'un corps ne dépend que de sa position et de celle des corps voisins. Dans le second cas, que la variation de l'accélération d'un corps ne dépend que de la position de ce corps et des corps voisins, de leur vitesse et de leurs accélérations. Ou bien, pour parler le langage mathématique, les équations différentielles du mouvement seraient du premier ordre dans le premier cas et du troisième ordre dans le deuxième cas. Modifions un peu notre fiction. Je suppose un monde analogue à notre système solaire, mais où, par un singulier hasard, les orbites de toutes les planètes soient sans excentricité et sans inclinaison. Je suppose de plus que les masses de ces planètes soient trop faibles pour que leurs perturbations mutuelles soient sensibles. Les astronomes qui habiteraient l'une de ces planètes ne manqueraient pas de conclure que l'orbite d'un astre ne peut être que circulaire et parallèle à un certain plan. La position d'un astre à un instant donné suffirait alors pour déterminer sa vitesse et toute sa trajectoire. La loi d'inertie qu'ils adopteraient serait la première des deux lois hypothétiques dont je viens de parler. Imaginons maintenant que ce système vienne un jour à être traversé avec une grande vitesse par un corps de grande masse, venu de constellations lointaines. Toutes les orbites seront profondément troublées. Nos astronomes ne seraient pas encore trop étonnés. Ils devineraient bien que cet astre nouveau est le seul coupable de tout le mal. Mais, diraient-ils, quand il se sera éloigné, l'ordre se rétablira de lui-même. Sans aucun doute, les distances des planètes au Soleil ne redeviendront pas celles qu'elles étaient avant le cataclysme, mais quand l'astre perturbateur ne sera plus là, les orbites redeviendront circulaires. Ce serait seulement quand le corps troublant serait loin, et quand cependant les orbites, au lieu de redevenir circulaires, deviendraient elliptiques, ce serait alors seulement que ces astronomes s'apercevraient de leur erreur et de la nécessité de refaire toute leur mécanique. J'ai un peu insisté sur ces hypothèses, car il me semble qu'on ne peut bien comprendre ce que c'est que notre loi d'inertie généralisée qu'en l'opposant à une hypothèse contraire. Eh bien maintenant, cette loi d'inertie généralisée a-t-elle été vérifiée par l'expérience? Et peut-elle l'être? Quand Newton a écrit les principes, il regardait bien cette vérité comme acquise et démontrait expérimentalement. Elle l'était à ses yeux, non seulement par l'idole anthropomorphique dont nous reparlerons, mais par les travaux de Galilée. Elle l'était aussi par les lois de Kepler elle-même. D'après ces lois, en effet, la trajectoire d'une planète est entièrement déterminée par sa position et par sa vitesse initiale. C'est bien là ce qu'exige notre principe d'inertie généralisée. Pour que ce principe ne fût vrai qu'en apparence, pour qu'on pût craindre d'avoir un jour à le remplacer par un des principes analogues que je lui opposais tout à l'heure, il faudrait que nous eussions été trompés par quelque surprenant hasard, comme celui qui, dans la fiction que je développais plus haut, avait induit en erreur nos astronomes imaginaires. Une pareille hypothèse est trop invraisemblable pour que l'on s'y arrête. Personne ne croira qu'il puisse y avoir de tels hasards. Sans doute, la probabilité pour que deux excentricités soient précisément toutes deux nulles, aux erreurs près d'observation, n'est pas plus petite que la probabilité pour que l'une soit précisément égale à 0,1, par exemple, et l'autre à 0,2, aux erreurs près d'observation. La probabilité d'un événement simple n'est pas plus petite que celle d'un événement compliqué. Et pourtant, si le premier se produit, nous ne voudrons pas croire que la nature a fait exprès de nous tromper. L'hypothèse d'une erreur de ce genre étant écartée, on peut donc admettre qu'en ce qui concerne l'astronomie, notre loi a été vérifiée par l'expérience. Mais l'astronomie n'est pas la physique tout entière. Ne pourrait-on craindre que quelque expérience nouvelle ne vînt un jour mettre la loi en défaut dans quelque canton de la physique? Une loi expérimentale est toujours soumise à la révision. On doit toujours s'attendre à la voir remplacée par une autre loi plus précise. Personne cependant ne redoute sérieusement que celles dont nous parlons doivent être jamais abandonnées ou amendées. Pourquoi? Précisément parce qu'on ne pourra jamais la soumettre à une épreuve décisive. Tout d'abord, pour que cette épreuve fût complète, il faudrait qu'après un certain temps, tous les corps de l'univers reviennent à leur position initiale avec leur vitesse initiale. On verrait alors si, à partir de ce moment, ils reprennent les trajectoires qu'ils ont déjà suivies. Mais cette épreuve est impossible. On ne peut la faire que partiellement, et si bien qu'on la fasse, il y aura toujours quelques corps qui ne reviendront pas à leur position initiale. Ainsi, toute dérogation à la loi trouvera facilement son explication. Ce n'est pas tout. En astronomie, nous voyons les corps dont nous étudions les mouvements et nous admettons le plus souvent qu'ils ne subissent pas l'action d'autres corps invisibles. Dans ces conditions, il faut bien que notre loi se vérifie ou ne se vérifie pas. Mais en physique, il n'en est pas de même. Si les phénomènes physiques sont dus à des mouvements, c'est au mouvement des molécules que nous ne voyons pas. Si alors l'accélération d'un des corps que nous voyons nous paraît dépendre d'autre chose que des positions ou des vitesses des autres corps visibles, ou des molécules invisibles dont nous avons été amenés antérieurement à admettre l'existence, rien ne nous empêchera de supposer que cette autre chose est la position ou la vitesse d'autres molécules dont nous n'avions pas jusque-là soupçonné la présence. La loi se trouvera sauvegardée. Qu'on me permette d'employer un instant le langage mathématique pour exprimer la même pensée sous une autre forme. Je suppose que nous observions n molécules et que nous constations que leurs 3n coordonnées satisfont à un système de 3n équations différentielles du quatrième ordre et non du deuxième ordre, comme l'exigerait la loi d'inertie. Nous savons qu'en introduisant 3n variables auxiliaires, un système de 3n équations du quatrième ordre peut être ramené à un système de 6n équations du deuxième ordre. Si alors nous supposons que ces 3n variables auxiliaires représentent les coordonnées de n molécules invisibles, le résultat est de nouveau conforme à la loi d'inertie. En résumé, cette loi, vérifiée expérimentalement dans quelques cas particuliers, peut être étendue sans crainte aux cas les plus généraux, parce que nous savons que dans ces cas généraux, l'expérience ne peut plus ni la confirmer ni la contredire. La loi de l'accélération. L'accélération d'un corps est égale à la force qui agit sur lui divisée par sa masse. Cette loi peut-elle être vérifiée par l'expérience? Pour cela, il faudrait mesurer les trois grandeurs qui figurent dans l'énoncé: accélération, force et masse. J'admets qu'on puisse mesurer l'accélération parce que je passe sur la difficulté provenant de la mesure du temps. Mais comment mesurer la force ou la masse? Nous ne savons même pas ce que c'est. Qu'est-ce que la masse? C'est, répond Newton, le produit du volume par la densité. Il vaudrait mieux dire, répondent Thomson et Tate, que la densité est le quotient de la masse par le volume. Qu'est-ce que la force? C'est, répond Lagrange, une cause qui produit le mouvement d'un corps ou qui tente à le reproduire. C'est, dira Kirchhoff, le produit de la masse par l'accélération. Mais alors, pourquoi ne pas dire que la masse est le quotient de la force par l'accélération? Ces difficultés sont inextricables. Quand on dit que la force est la cause d'un mouvement, on fait de la métaphysique, et cette définition, si on devait s'en contenter, serait absolument stérile. Pour qu'une définition puisse servir à quelque chose, il faut qu'elle nous apprenne à mesurer la force. Cela suffit d'ailleurs. Il n'est nullement nécessaire qu'elle nous apprenne ce que c'est la force en soi, ni si elle est la cause ou l'effet du mouvement. Il faut donc d'abord définir l'égalité de deux forces. Quand dira-t-on que deux forces sont égales? C'est, répondra-t-on, quand, appliquée à une même masse, elle lui imprime une même accélération, ou quand opposées directement l'une à l'autre, elles se font équilibre. Cette définition n'est qu'un trompe-l'œil. On ne peut pas décrocher une force appliquée à un corps pour l'accrocher à un autre corps, comme on décroche une locomotive pour l'atteler à un autre train. Il est donc impossible de savoir quelle accélération telle force appliquée à tel corps imprimerait à tel autre corps, si elle lui était appliquée. Il est impossible de savoir comment se comporteraient deux forces qui ne sont pas directement opposées, si elles étaient directement opposées. C'est cette définition que l'on cherche à matérialiser, pour ainsi dire, quand on mesure une force avec un dynamomètre, ou en l'équilibrant par un poids. Deux forces, F et F', que je supposerai verticales et dirigées de bas en haut pour simplifier, sont respectivement appliquées à deux corps C et C'. Je suspends un même corps pesant P, d'abord au corps C, puis au corps C'. Si l'équilibre a lieu dans les deux cas, je conclurai que les deux forces F et F' sont égales entre elles, puisqu'elles sont égales toutes deux au poids du corps P. Mais suis-je sûr que le corps P a conservé le même poids quand je l'ai transporté du premier corps au second? Loin de là. Je suis sûr du contraire. Je sais que l'intensité de la pesanteur varie d'un point à l'autre, et qu'elle est plus forte, par exemple, au pôle qu'à l'équateur. Sans doute la différence est très faible, mais dans la pratique, je n'en tiendrai pas compte. Mais une définition bien faite devrait avoir une rigueur mathématique. Cette rigueur n'existe pas. Ce que je dis du poids s'appliquerait évidemment à la force du ressort d'un dynamomètre, que la température et une foule de circonstances peuvent faire varier. Ce n'est pas tout. On ne peut pas dire que le poids du corps P soit appliqué au corps C et équilibre directement la force F. Ce qui est appliqué au corps C, c'est l'action A du corps P sur le corps C. Le corps P est soumis de son côté d'une part à son poids, d'autre part à la réaction R du corps C sur P. En définitive, la force F est égale à la force A parce qu'elle lui est faite équilibre. La force A est égale à la force R en vertu du principe de l'égalité de l'action et de la réaction. Et enfin, la force R est égale au poids P parce qu'elle lui fait équilibre. C'est de ces trois égalités que nous en déduisons comme conséquence l'égalité de F et du poids de P. Nous sommes donc obligés de faire intervenir dans la définition de l'égalité de deux forces le principe même de l'égalité de l'action et de la réaction. À ce compte, ce principe ne devrait plus être regardé comme une loi expérimentale, mais comme une définition. Nous voici donc pour reconnaître l'égalité de deux forces en possession de deux règles. Égalité de deux forces qui se font équilibre, égalité de l'action et de la réaction. Mais, nous l'avons vu plus haut, ces deux règles sont insuffisantes. Nous sommes obligés de recourir à une troisième règle et d'admettre que certaines forces, comme par exemple le poids d'un corps, sont constantes en grandeur et en direction. Mais cette troisième règle, je l'ai dit, est une loi expérimentale. Elle n'est qu'approximativement vraie, elle est une mauvaise définition. Nous sommes donc ramenés à la définition de Kirchhoff. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Cette loi de Newton cesse à son tour d'être regardée comme une loi expérimentale, elle n'est plus qu'une définition. Mais cette définition est encore insuffisante, puisque nous ne savons pas ce qu'est la masse. Elle nous permet sans doute de calculer le rapport de deux forces appliquées à un même corps à des instants différents. Elle ne nous apprend rien sur le rapport de deux forces appliquées à deux corps différents. Pour la compléter, il faut de nouveau recourir à la troisième loi de Newton, égalité de l'action et de la réaction. Regardez encore, non comme une loi expérimentale, mais comme une définition. Deux corps A et B agissent l'un sur l'autre, l'accélération de A multipliée par la masse de A est égale à l'action de B sur A. De même, le produit de l'accélération de B par sa masse est égal à la réaction de A sur B. Comme par définition, l'action est égale à la réaction, les masses de A et de B sont en raison inverse des accélérations de ces corps. Voilà le rapport de ces masses définies. Et c'est à l'expérience de vérifier que ce rapport est constant. Ce serait très bien si les deux corps A et B étaient seuls en présence et soustraits à l'action du reste du monde. Il n'en est rien. L'action de A n'est pas due uniquement à l'action de B, mais à celle d'une foule d'autres corps, C, D. Pour appliquer la règle précédente, il faut donc décomposer l'accélération de A en plusieurs composantes et décerner quelle est celle de ces composantes qui est due à l'action de B. Cette décomposition serait encore possible si nous admettions que l'action de C sur A s'ajoute simplement à celle de B sur A, sans que la présence du corps C modifie l'action B sur A, ou que la présence de B modifie l'action de C sur A. Si nous admettions par conséquent que deux corps quelconques s'attirent, et que leur action mutuelle est dirigée suivant la droite qui les joint, et ne dépend que de leur distance. Si nous admettions, en un mot, l'hypothèse des forces centrales. On sait que, pour déterminer les masses des corps célestes, on se sert d'un principe tout différent. La loi de gravitation nous apprend que l'attraction de deux corps est proportionnelle à leur masse. Si petit r est leur distance, m et m' leur masse, k une constante, leur attraction sera km' divisé par r carré. Ce qu'on mesure alors, ce n'est pas la masse, rapport de la force à l'accélération, c'est la masse attirante. Ce n'est pas l'inertie du corps, c'est son pouvoir attirant. C'est là un procédé indirect, dont l'emploi n'est pas théoriquement indispensable. Il aurait très bien pu se faire que l'attraction fût inversement proportionnelle au carré de la distance, sans être proportionnelle au produit des masses, qu'elle fût égale à F divisé par R carré, mais sans que l'on eût F égale KMM'. S'il en était ainsi, on pourrait néanmoins, par l'observation des mouvements relatifs des corps célestes, mesurer les masses des corps. Mais avons-nous le droit d'admettre l'hypothèse des forces centrales? Cette hypothèse est-elle rigoureusement exacte? Est-il certain qu'elle ne sera jamais contredite par l'expérience? Qui oserait l'affirmer? Et si nous devons abandonner cette hypothèse, tout l'édifice, si laborieusement élevé, s'écroulera. Nous n'avons plus le droit de parler de la composante de l'accélération de A qui est due à l'action de B. Nous n'avons aucun moyen de la discerner de celle qui est due à l'action de C ou d'un autre corps. La règle pour la mesure des masses devient inapplicable. Que reste-t-il alors du principe de l'égalité de l'action et de la réaction? Si l'hypothèse des forces centrales est rejetée, ce principe doit évidemment s'énoncer ainsi. La résultante géométrique de toutes les forces appliquées aux divers corps d'un système, soustrait à toute action extérieure, sera nulle. Ou, en d'autres termes, le mouvement du centre de gravité de ce système sera rectiligne et uniforme. Voilà, semble-t-il, un moyen de définir la masse. La position du centre de gravité dépend évidemment des valeurs attribuées aux masses. Il faudra disposer de ces valeurs de façon que le mouvement de ce centre de gravité soit rectiligne et uniforme. Cela sera toujours possible si la troisième loi de Newton est vraie, et cela ne sera possible en général que d'une seule manière. Mais il n'existe pas de système soustrait à toute action extérieure. Toutes les parties de l'univers subissent plus ou moins fortement l'action de toutes les autres parties. La loi du mouvement du centre de gravité n'est rigoureusement vraie que si on l'applique à l'univers tout entier. Mais alors il faudrait, pour en tirer les valeurs des masses, observer le mouvement du centre de gravité de l'univers. L'absurdité de cette conséquence est manifeste. Nous ne connaissons que des mouvements relatifs. Le mouvement du centre de gravité de l'univers restera pour nous une éternelle inconnue. Il ne reste donc rien, et nos efforts ont été infructueux. Nous sommes acculés à la définition suivante, qui n'est qu'un aveu d'impuissance. Les masses sont des coefficients qu'il est commode d'introduire dans les calculs. Nous pourrions refaire toute la mécanique en attribuant à toutes les masses des valeurs différentes. Cette mécanique nouvelle ne serait pas en contradiction ni avec l'expérience, ni avec les principes généraux de la dynamique, principe d'inertie, proportionnalité des forces aux masses et aux accélérations, égalité de l'action et de la réaction, mouvement rectiligne et uniforme du centre de gravité, principe des airs. Seulement, les équations de cette mécanique nouvelle seraient moins simples. Entendons-nous bien, ce seraient seulement les premiers termes qui seraient moins simples, c'est-à-dire ceux que l'expérience nous a déjà fait connaître. Peut-être pourrait-on alterner les masses de petites quantités sans que les équations complètes gagnent ou perdent en simplicité.